De la tyrannie, Victor Alfieri, livre premier, chapitre premier. Ce que c'est qu'un tyran. Vouloir définir les choses par les noms serait croire ou prétendre qu'elles sont aussi inaltérables ou aussi durables que les noms eux-mêmes, ce qui évidemment n'a jamais existé. Celui donc qui aime la vérité doit, avant toute chose, définir les noms par les choses qu'ils représentent. Et, ces choses variant dans tous les temps et dans tous les pays, aucune définition ne peut rester plus stable qu'elles. Mais une définition sera juste toutes les fois qu'elle représentera la chose telle qu'elle était sous tel nom, dans tel temps et dans tel lieu. En admettant ce petit préambule, j'avais conçu une définition suffisamment exacte et précise du tyran, que j'avais placée au commencement de ce chapitre. Mais dans un autre livre écrit après et imprimé avant celui-ci, ayant eu besoin de définir le prince, il m'est arrivé, sans m'en apercevoir, de me servir de la définition du tyran. Ainsi, pour ne point me répéter, je la passerai sous silence en partie, et je n'y ajouterai que les particularités absolument nécessaires au sujet que je traite maintenant, et qui est tout à fait différent de celui du prince et des lettres, quoique également dirigé au but très utile de chercher la vérité et de l'écrire. Les Grecs, ces hommes véritablement hommes, donnaient le nom de tyran à ceux que nous appelons rois, et que les anciens flétrissaient indistinctement du nom de roi ou de tyran. Tous ceux qui obtenaient sans réserve les rênes du gouvernement, par la force ou par la ruse, par la volonté même du peuple ou des puissants, et qui se croyaient et étaient en effet au-dessus des lois. Un tel nom avec le temps devint exécrable, il devait l'être par sa nature. Et de là, nous voyons aujourd'hui que les princes, qui exercent la tyrannie, s'offensent hautement d'être appelés tyrans. Une telle confusion de noms et d'idées a mis entre nous et les anciens une telle différence d'opinion qu'à leurs yeux, un Titus, un Trajan ou quelque autre prince, encore plus rare par sa bonté, aurait pu être traité par eux de tyran, tandis que parmi nous, un Néron, un Tibère, un Philippe II, un Henri VIII ou tout autre monstre moderne capable d'égaler les anciens pourrait être appelé prince légitime ou roi. Tel est l'aveuglement du vulgaire ignorant, porté dans ce siècle à un tel degré qu'il se laisse facilement tromper par de simples noms, que sous un autre titre, il met son bonheur à avoir des tyrans, tandis qu'il déplore le malheur des anciens peuples qui les souffraient. Chez les nations modernes, on ne donne donc le nom de tyran, et encore tout bas et en tremblant, qu'à ces princes seulement, qui, sans aucune formalité, ravissent à leurs sujets la vie, les biens et l'honneur. On appelle au contraire rois et princes ceux qui, pouvant disposer de toutes les choses à leur fantaisie, les laissent néanmoins à leur sujet, ou ne les ravissent que sous un voile apparent de justice. On les décore même alors du titre de clément et de juste, parce que pouvant avec impunité se rendre maître de toutes choses, il semble que l'on reçoive d'eux comme un don tout ce qu'ils ne veulent pas nous ravir. Mais la nature même des choses offre à celui qui médite une distinction plus exacte et plus précise. Puisque le nom de tyran est le plus odieux de tous les noms, on ne doit le donner qu'à ceux des princes ou de simples citoyens qui ont acquis, n'importe comment, la faculté illimitée de nuire. Et, quand même ils n'en abuseraient pas, le fardeau qu'ils se sont imposé est tellement absurde et contraire à la nature qu'on ne saurait en inspirer trop d'horreur en leur donnant un nom si odieux et si infâme. Le nom de roi, au contraire, étant de quelques degrés moins exécrable que celui de tyran, devrait être donné à celui qui, soumis lui-même aux lois, et beaucoup moins puissant qu'elle, n'est dans une société que le premier, le légitime et le seul exécuteur impartial des lois établies. Si cette distinction simple et nécessaire était universellement reconnue en Europe, elle y ferait luire la première aurore de la liberté, prête à éclairer le monde. Il est reconnu qu'aucune institution humaine n'étant permanente ni stable, il arrive, comme le dirent tant de sages, que la liberté, prenant le caractère de la licence, à la fin, elle dégénère en esclavage. Ainsi, le gouvernement d'un seul marchant toujours vers la tyrannie, il devrait à son tour se régénérer en liberté. Maintenant, si je jette mes regards sur toute l'Europe, je n'aperçois dans presque toutes ces contrées que des figures d'esclaves. Et, si comme il est prouvé que l'oppression générale ne peut plus s'accroître, quoique la roue toujours mobile des choses humaines paraisse s'arrêter en faveur des tyrans, les hommes sages doivent croire et espérer que l'événement inévitable qui doit substituer à la servitude universelle une liberté presque universelle n'est pas désormais fort éloignée.